Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapitre 8. Le nouveau vin de Dieu. Nous avons découvert la nature et le caractère de Dieu, ainsi que l'importance de comprendre sa vraie nature. Nous avons vu comment Dieu a agi vis-à-vis des hommes depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. À cause de la confusion qui subsiste encore à ce sujet, peu comprennent la vraie nature de Dieu. Puisque Dieu agissait d'une manière sous l'Ancien Testament et d'une autre sous le Nouveau Testament, nous savons maintenant pourquoi la plupart des gens pensent que Dieu est schizophrène. Beaucoup ont essayé en vain de combiner les deux styles de vie. Nous avons aussi vu que l'Ancien Testament complète le Nouveau et pointe vers la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament prépare la voie au Nouveau. Tenter de vivre sous la Nouvelle Alliance et sous l'Ancienne, en même temps, revient à mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres éclatent et le vin se répand à terre. C'est comme si on cousait une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement. La pièce neuve rétrécirait au lavage et au séchage, mais le vieux vêtement se déchirerait puisqu'il avait déjà rétréci. C'est exactement ce que dit Jésus dans les paraboles de Luc 5, versets 36 à 39. Les leaders religieux de l'époque voulaient lui faire respecter les traditions et les doctrines de l'Ancien Testament. Quand Jésus enseigna de ne pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, il faisait référence à l'Ancienne et à la Nouvelle Alliance. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbes 16, verset 6. En méditant ce passage et en l'analysant, vous découvrirez qu'il est puissant. La première partie du verset dit que l'iniquité est expiée par la bonté, la vérité en anglais. Seule la bonté et la fidélité transforment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. La dernière partie de ce verset dit que l'homme se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. Vous pouvez faire en sorte que les gens se détournent du mal par la colère, le jugement, la condamnation et la crainte. Pour éloigner les gens du péché, Dieu a donné la loi de l'Ancien Testament qui engendrait la colère et la condamnation. En jugeant sévèrement le péché, la loi n'était pas censée refléter la vraie nature de Dieu ou ses sentiments à notre égard, mais nous empêcher de pécher par la peur qu'elle inspirait. La loi restreignait la croissance du péché sur terre et nous incitait à nous détourner du mal, mais elle ne pouvait rien changer à l'homme intérieur, ni à ses désirs. Elle ne pouvait pas le transformer intérieurement tel que Dieu le désirait. La loi en était absolument incapable. Les livres aux Romains, Galates et Hébreux indiquent que la loi était faible et inutile. Elle était sur le point de disparaître. Galates 3, verset 12, dit que la loi ne procède pas de la foi. Romains 14, verset 23, dit que « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ces deux versets sont deux affirmations puissantes. La loi de l'Ancien Testament était efficace dans sa raison d'être, mais elle était totalement incapable de nous changer intérieurement. Par contre, la bonté et la fidélité, vérité en anglais, y parviennent. La loi n'arrivait qu'à nous détourner du mal pour un temps et nous révélait notre besoin d'un sauveur. Mais quand Jésus est venu dans notre vie, avec la bonté et la fidélité, notre homme intérieur a été purgé du péché. Une bonne amie, que j'appellerai Jill, a un très long témoignage que je vais écourter. À 6 ans, elle était orpheline. Elle avait 2 sœurs. À la mort de sa mère, son père n'arriva plus à faire face. Il devint alcoolique et plaça Jill dans un orphelinat, en lui promettant de lui rendre visite tous les samedis. Il vint le premier samedi et ce fut la dernière fois. Chaque samedi, elle se préparait, s'habillait, se faisait la plus belle possible et attendait son père. Tous ses amis lui disaient « Il ne viendra jamais, il est comme les autres. » Elle répondait « Pas mon papa. Mon papa m'aime. Il viendra. Année après année, elle a attendu. Mais son papa n'est jamais venu. Jill nourrit un sentiment de rejet et réclama l'amour des autres. Chaque samedi, des couples candidats à l'adoption venaient à l'orphelinat pour choisir un enfant. Jill portait toujours sa plus belle robe, se coiffait bien et se comportait du mieux possible. Même si son cœur était brisé, elle souriait et semblait heureuse, parce qu'en général, les gens qui se rendent dans un orphelinat pour choisir un enfant ne prennent pas forcément celui qui en a le plus besoin, ni celui que le manque d'amour fait pleurer tout le temps. Très souvent, ils prennent celui qui va les bénir le plus. La plupart des gens cherchent à se faire plaisir dans tout ce qu'ils font. C'est d'ailleurs de cette manière qu'ils choisissent un conjoint. Ils ne cherchent pas à l'aimer ni à l'aider à faire la volonté de Dieu. Ils choisissent quelqu'un qui, pensent-ils, les aidera à devenir qui ils veulent être. Quelqu'un qui leur apportera quelque chose. Ils sont comme un aspirateur toujours en train d'aspirer quelque chose vers eux. Les couples qui venaient à l'orphelinat n'étaient pas différents. Ils ne choisissaient pas l'enfant qui avait le plus besoin d'eux. Ils prenaient plutôt celui ou celle dont ils avaient le plus besoin. Ainsi Jill apprit, sans que personne le lui enseigne, qu'elle devait gagner son acceptation. Alors elle y travailla dur. Elle était toujours sous son meilleur jour. Jill ne fut jamais adoptée. Mais elle réussit à vaincre certains sentiments de rejet. En terminale, elle fut élue déléguée de classe et devint la miss de l'école. Elle fut choisie pour sa popularité et sa beauté. Elle rafla toutes les récompenses. Mais à ses yeux, ce n'était que le fruit de ses propres efforts. Elle ne permit jamais à quiconque de la voir sous son vrai jour. Toute sa vie n'était que performance pour s'attirer la faveur des autres. Un jour, elle rencontra un homme que j'appellerai Ray. Il avait grandi dans une famille chrétienne et pour lui, tout allait pour le mieux. Il en tomba amoureux et ils se marièrent. Au début de leur mariage, puisqu'elle ne savait pas cuisiner, elle passa de longues heures à se documenter pour essayer de réaliser de bons petits plats. Sa cuisine était terrible. Mais Ray mangeait sans rechigner. Jill cherchait toujours à accomplir des performances. Elle ne laissait jamais son mari la voir avec des bigoudis sur la tête ou sans maquillage. Elle se levait avant tout le monde pour être sûre de présenter une apparence parfaite. Elle faisait tous les efforts possibles pour entretenir cette image de perfection. Au bout de quelques mois de mariage, Jill et Ray se disputèrent. En abordant le sujet, Jill se mit à pleurer. Elle était horrible à voir. Son nez et ses yeux étaient tout rouges. Son mascara avait dégouliné. Son apparence, artificielle, était ruinée. Elle croyait avoir gâché le fruit de ses efforts. En plein milieu du conflit, elle dit à Ray, « Vas-y, quitte-moi. Je sais bien que tu veux divorcer. Quitte-moi et tu verras si ça me fait quelque chose. » Ray la regarda et dit, « Divorcer ?» Juste parce qu'on n'est pas d'accord sur un point? Mais Jill, je t'aime. Peu importe si nous ne sommes pas d'accord sur tout, je refuse de divorcer. Ces paroles la bouleversèrent totalement. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse l'aimer sans qu'elle ait eu à fournir des efforts. En dépit de son insécurité, son mari, qui l'aimait d'une manière inconditionnelle, lui avait fait savoir qu'elle n'avait pas besoin de travailler pour gagner son amour. Malgré sa pitre apparence, il l'aimait exactement de la même façon. L'amour de Ray, l'amour inconditionnel que Jésus avait déversé dans son cœur, changea la vie de Jill. Aujourd'hui, c'est une des personnes les plus sécurisées que je connaisse parce qu'elle n'a plus à gagner la faveur des autres par ses efforts. Elle est sécurisée dans l'amour de Dieu qu'elle reçoit au travers de son mari. Il lui fallut du temps, mais elle a un des plus puissants témoignages que j'ai jamais entendu. En entendant l'histoire de Jill, je me suis identifiée à elle. Je ne cherchais pas à gagner la faveur des autres, mais celle de Dieu. En grandissant, je voulais toujours mériter sa faveur, Par des efforts spirituels, j'essayais de faire de mon mieux, ne prononcer aucun gros mot, ne jamais boire d'alcool, ni fumer de cigarette. J'étais aussi bon que possible, mais malgré cela, je me sentais probablement plus mal aimé et plus condamné par Dieu que la majorité de ceux du monde qui vivaient dans le péché, buvaient, faisaient la fête et commettaient toutes sortes de choses. Je vous ai raconté mes réveils accompagnés de sueurs froides à cause d'un rêve dans lequel j'allais en enfer pour avoir fumé une cigarette. Si dans les toilettes d'un restaurant, mes yeux se portaient sur des mots orduriers écrits sur les murs, la simple vue de ces mots me donnait l'impression d'être coupable, condamné et souillé. Il me fallait des jours, voire des semaines pour surmonter ce genre de situation. Les gens qui n'ont pas grandi dans un environnement religieusement strict et culpabilisant n'ont probablement aucune idée de ce que je dis. Le péché reste mortel, même si vous le rationalisez. Après tout, tout le monde vit ainsi. Même si vous ne culpabilisez pas comme moi, le péché va quand même vous détruire et vous envoyer en enfer, à moins que vous ne donniez totalement votre vie à Jésus et que vous ne viviez une relation intime avec Dieu. Même si je menais une vie sainte, aux normes de la majorité des gens, je me sentais coupable et condamné. Je n'étais pas libre d'aimer Dieu ou d'entretenir avec lui une relation intime. J'étais près de lui, mais il me paraissait bien impersonnel. Je savais que Jésus était mon sauveur et que j'étais né de nouveau, mais je n'avais aucune relation intime avec le Père. Elle était d'ailleurs impossible tant que je vivais sous la culpabilité et la condamnation. J'ai découvert que la plupart des chrétiens en sont là à cause d'une conception de Dieu fondée sur l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence, ils pensent que Dieu épie leurs moindres gestes pour les condamner, qu'il ne les bénit plus et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec eux dès qu'ils ont commis le premier péché. Si vous êtes né nouveau, vous savez probablement que Dieu ne va pas vous envoyer en enfer, mais il est probable que vous croyez qu'il vous refusera ce que vous lui avez demandé. Vous avez peut-être l'impression de mériter que Dieu vous laisse mariner dans votre jus. C'est totalement contraire à la nature de Dieu. Ceux qui ignorent cette vérité essayent continuellement de faire des efforts pour pouvoir dire « Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Est-ce suffisant ?» Ça ne le sera jamais. Vous n'en ferez jamais assez. Si vous pouviez en faire suffisamment pour obtenir les bénédictions de Dieu, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour vous. Ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez vivre dans le péché et dire « Gloire à Dieu, je suis béni grâce à ce que Jésus a fait. Peu importe si je pêche ou non. » Faux. Un manque de sainteté affectera votre relation avec le diable. Si vous ne voulez pas vivre de manière sainte, Satan vous dominera. Un jour, c'est votre communion avec Dieu qui en sera affectée. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Ne donnez pas de place au diable dans votre vie. Si vous vivez dans le péché, vous êtes en train de souiller votre conscience et d'endurcir votre cœur envers Dieu. L'amour de Dieu reste inchangé en dépit de ce que vous faites. C'est ce dernier concept qui fait dire à beaucoup « Frère, je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à croire que Dieu aime celui qui pêche. » Bien, laissez-moi vous dire ceci. Qu'est-ce que le péché? Ce n'est pas simplement le mal que vous faites, car Jacques 4, verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » D'après cette définition du péché, on conclut aisément qu'aucun de nous n'a jamais mis en pratique la révélation que Dieu nous a donnée. Personne n'a jamais prié sans cesse, n'est jamais arrivé à toujours mettre en premier le royaume de Dieu, n'a jamais été à tout moment au service de Dieu ou n'a pas continuellement aimé les autres comme lui-même. Personne n'a jamais vécu parfaitement dans tous les domaines de sa vie. Conclusion. Nous vivons tous dans le péché. Si c'est le cas et que Dieu ne peut communier avec celui qui pêche, alors Dieu ne peut communier avec personne. Si Dieu ne peut pas utiliser celui qui est en vase d'usage vil, alors il ne peut utiliser personne. Je suis totalement purifié dans mon esprit. Mais je fais encore des erreurs dans ma chair. Je ne suis pas parfait, et vous non plus. Certains disent, « Je ne crois pas que Dieu puisse aimer quelqu'un qui a un péché dans sa vie. » Voilà, on catégorise le péché. En fait, on dit, « Ces péchés-là sont si mauvais qu'ils vous empêchent de vous tenir devant Dieu. Ces autres péchés-là sont à la limite. » Puis, il y a les petits péchés inoffensifs que nous commettons tous. Mais ceux-là sont sans conséquences majeures. Ce n'est pas du tout l'avis de Dieu. Jacques 2, verset 10 dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Mes amis, c'est la Bible qui le dit. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Je n'ai jamais prononcé un mot grossier de toute ma vie. Pourtant, je suis coupable de blasphème d'après le standard parfait de la loi de Dieu. La loi est comme une grande vitre. Que je tire une balle dans la vitre ou que je lance un piano contre elle ou que je la défonce avec un camion, le résultat est le même. La taille de l'objet importe peu. Si vous cassez la vitre, elle est brisée. Il vous faudra la remplacer entièrement. La perfection, c'est le standard de Dieu. Vous êtes soit parfait, soit imparfait, et vous avez besoin d'un sauveur qui a été parfait pour vous. Si j'ai enfreint la loi de Dieu de manière insignifiante, si on se range à la vie générale, je l'ai donc entièrement enfreinte parce qu'elle est parfaite. La loi contient des centaines de commandements différents, mais il faut tous les respecter pour être parfait. À la moindre erreur, vous n'êtes plus en règle avec Dieu, à moins d'avoir un sauveur. Et si vous l'avez, vous êtes acquitté grâce à sa miséricorde et à ce qu'il, Jésus, a fait pour vous. Vos œuvres n'entrent pas en ligne de compte. Dans ce cas, pourquoi vivre pieusement? Parce que Satan en profiterait pour entrer dans votre vie, même si la porte n'est qu'entrouverte. Satan n'a besoin que d'un entrebâillement d'un centimètre pour y mettre le pied. Espace suffisant pour briser votre intimité avec Dieu. Par le péché, vous donnez une place au diable. En fait, vous lui donnez la place qui revient à Dieu. Aussi, dès que vous réalisez que vous venez de pécher, repentez-vous, restaurez votre intimité avec Dieu, et le diable sera mis dehors. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, versets 7 et 8. Voilà le vin nouveau. Nous nous soumettons à Dieu, nous nous approchons de lui, puis, par sa force et l'assurance de son amour inconditionnel, nous élevons des mains propres et un cœur purifié du péché. Avez-vous remarqué que Jacques parle des croyants comme étant des pécheurs? Nous admettons être irrésolus de temps à autre, mais surtout, ne nous appelez pas pécheurs. Quelle est la réponse de Dieu dans sa parole? Soumettez-vous à lui, approchez-vous de lui, puis vous serez lavés et purifiés, et du même coup débarrassés du diable. La loi de l'Ancien Testament devait vous présenter un standard si strict que finalement votre brillante intelligence réaliserait que vous ne pouviez pas l'atteindre. Conclusion, vous aviez besoin d'un sauveur. C'est vrai, avant le salut, et ça l'est toujours après. Jésus vous a sauvé de la mort éternelle et de l'enfer, le jour où vous êtes né de nouveau, mais chaque jour de votre vie sur terre, il vous sauve du péché, de la maladie, de la pauvreté et de toutes les attaques de Satan. La religion dit, si tu fais tout ce qu'il faut pour respecter la loi, Dieu te bénira. Elle veut que vous cessiez de faire confiance à Dieu et que vous comptiez sur vous-même. Non, cessez donc de placer votre confiance dans vos propres efforts et performances pour mériter les bénédictions de Dieu. Commencez à dépendre de Jésus et reposez-vous sur ce qu'il a fait au lieu de vous appuyer sur ce que vous avez fait. Ainsi, vous mettez du vin nouveau dans une nouvelle outre.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.